On était resté, ça remonte déjà pas mal de temps, à plusieurs mois, on était resté, si je ne m'abuse, à la sainteté de Jésus. Et je crois qu'on avait dû voir les deux premiers points. Le premier qui concernait le fait établi, et deuxièmement sa révélation. Il nous reste maintenant trois autres points à voir. Le premier, c'est l'affirmation par Jésus de sa sainteté. Est-ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas vu ce point-là? Si jamais on l'avait vu, vous me dites, c'est pas la peine de revenir. Bon, je commence. Si jamais vous vous rendez compte que c'est du déjà vu, vous me dites, hein. Bien, Jésus à plusieurs reprises a proclamé sa sainteté. Et l'affirmation de la sainteté de Jésus a été en face de ses adversaires comme un véritable défi. Et à plusieurs reprises, il a mis ses adversaires au défi de prouver qu'il avait pu pécher. Qui de vous me convaincra de pécher? Et dans tous les cas où Jésus a ainsi défié ses adversaires, aucun n'a été capable de relever la moindre faille dans sa vie. Et bien évident que s'il y avait eu quoi que ce soit dans la vie de Jésus qui aurait pu prêter à controverse, à discussion, ses adversaires, évidemment, n'auraient pas manqué de le reprocher. Or, jamais il n'y a eu la moindre accusation de porter contre lui, et même lors de son procès, qui était, comment dirais-je, placé sous le chef d'accusation de blasphème, les témoignages ne concordaient pas. Et le fait, bien entendu, n'a jamais pu être prouvé. On a essayé de déformer cette parole qu'il avait dite sur le temple, parlant du temple de son corps, comme dira l'apôtre Jean, mais là aussi, sans succès. Il a fallu que finalement les choses soient forcées pour que le chef d'accusation de blasphème puisse être retenu contre Jésus. Et les prétentions de Jésus dans ce domaine étaient énormes. En effet, personne n'avait jamais osé avoir de prétention de cet ordre-là. La Bible nous présente les hommes de Dieu les plus grands comme ayant des failles. Comme le dit l'apôtre Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous, qui avait les mêmes passions, les mêmes failles. Et la Bible nous présente chacun des hommes de Dieu ayant eu ces moments de faiblesse et de défaillance, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit les prophètes, aucun de ces hommes n'a jamais prétendu avoir eu une conduite parfaite. Jésus est le seul qui ait eu cette prétention-là. Et les affirmations de Jésus étaient telles que finalement, il fallait prendre parti et il fallait le faire, je dirais, sans nuance. Ou bien alors, Jésus était véritablement fou d'orgueil. Ou bien alors ce qu'il disait était vrai. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Et c'est pourquoi les deux réactions se retrouvent après la plupart des discours de Jésus, tels qu'ils nous sont reportés notamment dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, les discours de Jésus se terminent toujours par la réaction de la foule. Certains disaient, il est hors de sens, il égare la multitude. D'autres disaient, il a un Samaritain, il c'est un Samaritain ou il a un démon. Il y avait ceux qui disaient que c'était un homme dangereux, d'où justement le complot qui sera aussi monté contre lui. Et puis il y a ceux qui croyaient. Et ce qui est remarquable dans l'évangile de Jean en particulier, c'est que les discours de Jésus se terminent toujours par une division. Il y eut à cause de lui division parmi la foule. Et Jésus ainsi accomplissait la prophétie de Siméon, donnée au moment de la circoncision. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, qui provoquera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et cela, c'était le fait essentiellement de l'affirmation de sa sainteté. Jamais les prophètes d'Israël n'avaient eu de telles affirmations en ce qui les concernait, mais par contre, ils avaient annoncé que le Messie à venir serait ainsi sans péché, serait le Saint de l'Éternel, le Saint de Dieu. Et comme nous le disions, jamais ses adversaires n'ont pu le contredire sur ce plan-là. Ils ont manifesté leur scepticisme, mais ils n'ont pas pu apporter le moindre commencement de preuve que Jésus n'était pas conforme à ce qu'il affirmait. Quelle était la nature de la sainteté de Jésus ? Nous pouvons dire que la sainteté de Jésus était à la fois progressive et parfaite. Elle était parfaite dans ce sens que Jésus était quelqu'un qui choisissait toujours ce qui était la volonté du Père. Et puis en même temps, elle était progressive dans ce sens que Jésus a été soumis aussi aux lois de la croissance. Il croissait, nous est-il dit dans l'évangile de Luc, 2e chapitre, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En ce sens que Jésus était de plus en plus conscient de la volonté du Père et il s'y conformait dans la conscience qui était la sienne. En fait, la sainteté exige deux conditions pour qu'elle soit réalisée. Premièrement, connaître toujours, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, ce qui est juste et ce qui est bien. Et ceci implique pratiquement l'omniscience. C'est pourquoi la sainteté appartient à Dieu seul. Car l'homme, dans sa connaissance limitée, ne sait pas toujours ce qui est bien. Et même s'il y a dans son cœur de la bonne volonté, il peut pécher par inadvertance, sans même s'en rendre compte. Et c'est d'ailleurs ce qui était prévu dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Il y avait des sacrifices qui étaient offerts pour le péché commis par erreur, par inadvertance. Et deuxième condition, il faut que celui qui a ainsi connaissance de la volonté de Dieu ait la force morale de choisir de faire ce qui est juste et ce qui est bien. Deux conditions, évidemment, qui ne sont pas réalisées chez nous. Premièrement, parce que nous n'avons pas cette omniscience. Deuxièmement, parce que même lorsque la volonté du Seigneur nous est connue et révélée, nous n'avons pas toujours la force morale de choisir de l'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle la parfaite sainteté de Jésus implique aussi sa divinité. La sainteté de Jésus est aussi une des preuves de sa divinité. Parce que Jésus, donc, a été capable d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'il en avait toujours la connaissance. Il savait en toutes circonstances, étant à l'écoute de Dieu, ce qu'il convenait de faire. Et deuxièmement, il y avait en lui ce qu'il n'y a pas en nous, la force morale, pour accomplir toujours la volonté du Père. En effet, à la différence de ce qui est le cas pour nous, Jésus avait une nature semblable à la nôtre, mais Jésus ne connaissait pas ce que la Bible appelle le péché originel. Jésus n'avait pas cette tendance à pécher qui est la nôtre, que nous avons héritée de nos parents, et qui fait que le jeune enfant, quel qu'il soit, quand bien même ses parents seraient-ils les plus saints du monde, péchera. Et il le fera délibérément. Il péchera non seulement parce qu'il ne connaît pas toujours la volonté de Dieu, mais parce qu'il choisira délibérément de faire ce qui est mal. Je me souviens de ce que racontait un pasteur, un petit incident qui était arrivé avec ses enfants. Un jour, il avait dû partir avec sa femme pour faire une visite. Il avait une petite fille de, je sais pas, 4-5 ans, peut-être encore plus jeune. Et cette petite fille était donc restée, je crois que c'était sous la direction d'une sœur plus grande. Et puis bon, quand les parents sont rentrés de la visite, eh bien, cette petite fille avait pris ses peintures, etc., puis avait peint la tapisserie, évidemment, d'un goût qui n'était pas tout à fait celui des parents. Alors le père s'approche de sa fille, lui dit « C'est toi qui as fait ça ?» La petite fille s'est rendue compte qu'elle allait être grondée, elle a répondu « Non ». Et cette petite fille n'avait jamais entendu un mensonge de sa vie. Jamais. Ses parents étant chrétiens, Elle n'avait jamais entendu un mensonge, elle ne savait pas ce que c'était qu'un mensonge. Voilà. C'est cette tendance à pécher qui est dans le cœur de l'homme. Mais ça, Jésus en était exempt. Et cette tendance au péché fait que, en quelque sorte, face à la tentation à laquelle Jésus a été soumis comme nous, nous pouvons dire que nous avons un ennemi dans la place. Il y a un complice dans la place. Vous savez, c'est une des situations les plus terribles qui soient lorsque il y a un ennemi intérieur dans une ville assiégée. Vous connaissez tous l'histoire du fameux cheval de Troie. Ces guerriers grecs qui n'arrivaient pas à prendre la ville de Troie et qui, par ruse, avaient réussi à introduire dans la ville un cheval dans le ventre duquel ils avaient caché des guerriers. Et la nuit, pendant que tout le monde dormait, les guerriers sont sortis du cheval, ils ont ouvert la porte à leur complice qui était à l'extérieur, et ainsi est tombée la ville de Troie. Eh bien, nous pouvons dire que le péché est une sorte de cheval de Troie dans nos vies, dans nos cœurs. Et lorsque vient la tentation, l'attaque de l'ennemi, l'attaque de l'adversaire, nous n'avons pas simplement à résister sur le front extérieur, mais nous avons aussi à résister sur le front intérieur, parce qu'il y a des complices à l'intérieur. Il y a quelque chose en nous, et c'est la chair, qui est complice de la tentation qui est extérieure à nous-mêmes, qui trouve plaisir à cette tentation-là. Et c'est pourquoi la victoire, le chemin de la victoire, passe par la mort de la chair qui doit être crucifiée. Sinon, précisément, elle est comme ce cheval de Troie qui ouvre la porte à l'ennemi. Et c'est pourquoi la lutte contre la tentation est souvent une lutte difficile pour les êtres déchus que nous sommes. Jésus, lui, n'avait à résister que sur le front extérieur. Il n'avait pas en lui cette complicité à la tentation, mais tout son être se révoltait à la pensée même du péché. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Il y a en nous l'homme spirituel qui se révolte à la pensée du péché, mais si nous nous prenons garde, l'homme charnel lui acquiesce au péché. Il y a une division dans notre propre personnalité, et cette division n'existait pas en Jésus. Et bien sûr, il allait ainsi au devant de la tentation avec une force renouvelée. Pour nous, en face de la révélation de la volonté de Dieu, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que nous allons faire la volonté de Dieu et comment? Pour Jésus, seulement la deuxième question se posait. Est-ce que Jésus allait faire la volonté de Dieu? Cette question ne se posait pas, il allait la faire. « Je fais toujours ce qui lui est agréable », dit Jésus. La seule question qui se pose, c'est le comment. Deuxième remarque, c'est que chez Jésus, la volonté du Père n'était jamais contrainte. Elle était toujours joie. Elle était toujours source de joie. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre, dit Jésus. Il y a des moments pour nous où faire la volonté de Dieu est une joie, et il y en a d'autres où c'est une contrainte. Et c'est ainsi à cause, justement, de cette nature charnelle qui est la nôtre. Et c'est pourquoi la sainteté de Jésus est aussi une sainteté sanctifiante. À deux niveaux. D'abord parce que Jésus est dans ce domaine-là un modèle vers lequel nous devons fixer les yeux et chercher à l'imiter. Et puis deuxièmement, parce que Jésus pouvait dire « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. » Et la communion avec le Seigneur a une vertu sanctifiante, une puissance sanctifiante, qui fait en sorte que cette nature charnelle qui est la nôtre se trouve affaiblie jusqu'à être réduite à l'impuissance, et que ce cheval de Troie dangereux dont nous parlions tout à l'heure se trouve ainsi neutralisé lorsque nous sommes dans la communion du Seigneur. Troisième point, le témoignage de la sainteté de Jésus. Et ce témoignage trouve son expression la plus manifeste lors de la mort de Jésus. On peut dire qu'il y a eu déjà un certain nombre d'annonces de la mort de Jésus qui ont mis en évidence la sainteté de Jésus, l'innocence de Jésus. C'est d'abord la fameuse proclamation de Jean-Baptiste au Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et la Bible met en évidence le contraste entre l'innocence de Jésus et puis la mort du criminel qu'il subit. Il y a un contraste saisissant entre la sainteté de Jésus qui éclate au fur et à mesure des différentes étapes de la passion et puis en même temps le caractère infamant de la mort qu'il subit. Jésus en avait déjà donné plusieurs annonces à ses disciples, notamment dans le fameux discours sur le bon berger, quand il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus ici montre que sa mort n'est pas un accident, mais un don libre de lui-même, et qu'il va mourir de la mort du criminel, mais dans la plus parfaite et dans la plus totale des innocences. Le fait se révèle aussi au moment du dernier souper, où Jésus dit « Bien, ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui est donné pour vous, qui est répandu pour vous, pour le pardon de vos péchés. » Donc ici, la signification de la mort que Jésus va subir est nettement révélée. C'est véritablement la mort du juste. C'est la mort de l'innocent. Mort qui avait été prophétisée dans les psaumes en particulier. Et les psaumes sont tout entiers remplis de la souffrance du juste, la souffrance injustifiée du juste, le châtiment du juste qui meurt comme le coupable et à la place du coupable. Et bien évidemment aussi chez les prophètes, et notamment chez le prophète Ésaïe. Nous trouvons aussi l'onction de Béthanie, où Jésus souligne que la femme qui, loin de ce parfum de grand prix, a véritablement compris la nature de la mort qu'il va souffrir, et qu'elle a réalisé l'importance de la sainteté de Jésus en offrant ce parfum de grand prix à celui qui en était digne. Ensuite, il y a les trois annonces de la passion qu'on trouve chez Matthieu, où Jésus annonce que le Fils de l'homme, donc le juste et le saint, va mourir. On pourrait aussi évoquer la parabole des vignerons, où le Fils innocent qui vient chercher, envoyé par le Père, le fruit de la vigne que les méchants vignerons refusaient de donner aux serviteurs qui avaient été envoyés avant lui, se voit battu et mis à mort. Et puis, comme nous le soulignons souvent, la mort de Jésus est présentée comme un des éléments essentiels du plan de Dieu. Un des éléments qui a été conçu dans le dessein divin avant même la fondation du monde. Et il y a deux textes qui le soulignent fortement. La première épître de Pierre, chapitre 2, verset 20, et Apocalypse 13, verset 8. Et Jésus a souligné que sa mort, la mort du juste, la mort de l'innocent, ouvre une époque tout à fait nouvelle. Elle ouvre le temps de la fin. Le temps de la fin qui avait été annoncé par des réalités prophétiques, par exemple l'annonce de la Pâque, et je ne reviens pas sur le rituel de Pessah, de Pâques, où est annoncée symboliquement la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu, du Messie. C'était aussi quelque chose qui était prophétisé symboliquement dans les offrandes lévitiques, notamment celle qui était accomplie le jour du Yom Kippour. Nous en avons parlé ces jours-ci, je ne m'y étends pas non plus. Et puis il y a de nombreux textes prophétiques qui le soulignent, le plus célèbre étant évidemment le chapitre 53 du prophète Ésaïe et la fin du chapitre 52. Mais on trouve ça aussi chez Zacharie, chapitre 13, Ésaïe 50, le troisième chant du serviteur de l'Éternel, et puis de nombreux psaumes, notamment le psaume 22 et le psaume 69. Et c'est précisément cette sainteté absolue de Jésus qui est la base de la doctrine de l'expiation. Il ne peut pas y avoir d'expiation si Jésus n'est pas sans péché. Car alors, si Jésus a dans sa vie la moindre faille, eh bien, sa mort ne peut avoir un caractère expiatoire à la limite que pour lui-même. Mais si Jésus est véritablement sans péché, alors il peut, et effectivement et réellement, être une offrande substitutive pour le péché des autres. Et c'est ce qui était prophétisé justement dans les différents rites de l'Ancien Testament que nous avons souligné, que ce soit le rituel de l'agneau de Pessah, que ce soit le rituel du Kippour, où les victimes qui devaient être offertes au Seigneur devaient être des victimes sans défaut, sans le moindre défaut. Et la Bible souligne souvent cela. S'il y avait le moindre défaut dans la victime, cette victime était disqualifiée. Et c'était une annonce prophétique de ce que devait être le Messie. Et c'est pourquoi nous sommes ici en pleine actualité et que le film abominable de Cescorès, je crois, est véritablement ici une attaque diabolique, à la fois par son caractère blasphématoire, mais à la fois aussi sur le plan doctrinal. Parce que ce film a pour but de faire entrer dans l'esprit du public que Jésus n'était en fin de compte qu'un homme comme un autre et qu'il était aussi capable de pécher et qu'il a péché. Et ce faisant, c'est la destruction de la doctrine de l'expiation, c'est la destruction de tout espoir de salut. Et là, nous avons ici affaire à quelque chose de diabolique, c'est pourquoi précisément réaffirmer haut et fort la sainteté absolue de Jésus est une des conditions essentielles pour que nous puissions continuer en quelque sorte à prêcher l'Évangile et pour que la réalité du salut puisse véritablement être proclamée. Voilà ce qui concerne donc cette doctrine de l'expiation. Nous passons maintenant à un nouveau chapitre, Jésus en tant que prophète. Jésus était le Fils de Dieu, et c'est évidemment la chose la plus importante à dire en ce qui le concerne. Mais si Jésus est apparu comme le Fils de Dieu, il est aussi apparu dans un certain nombre de missions qui lui ont été confiées, et une de ces missions a aussi été une mission prophétique. Bien entendu, quand nous disons que Jésus a été un prophète, il faudrait nous garder de dire que Jésus n'a été que cela. C'est ce que font un certain nombre d'hérésies, la plus célèbre d'entre elles étant évidemment l'islam, pour lesquels Jésus était un prophète, mais pas plus qu'un prophète. Jésus était plus qu'un prophète, mais qui peut le plus, peut le moins, parce que justement, il était plus qu'un prophète, il était aussi un prophète. Et on peut dire qu'à ce sujet-là, il était le plus grand des prophètes. L'Épître aux Hébreux nous le présente justement sous trois aspects. L'aspect royal, l'aspect sacerdotal, le grand prêtre, et puis l'aspect prophétique. Ce faisant, l'Épître aux Hébreux ne faisait que reprendre la tradition juive en ce qui concernait le Messie, telle qu'elle apparaît en particulier au travers des documents de la Mère Morte, des documents de Qumran, où le Messie est présenté sous ses trois fonctions, sa fonction royale, fils de David, sa fonction sacerdotale, fils d'Aaron et de Melchizedek, comme on trouve dans le psaume 110, Et puis enfin, sous sa fonction prophétique, cette fonction prophétique qui est déjà annoncée par Moïse, lorsque dans le livre du Deutéronome, Moïse proclame « Le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, celui qui n'écoutera pas ce prophète sera mis à mort ». Et le Nouveau Testament reprend ce texte. La tradition juive considère que Moïse est le premier et le plus grand des prophètes. Le livre du Deutéronome dit en effet qu'il n'est plus paru de prophète comme Moïse. Et à partir de la disparition de Moïse, on s'est mis à attendre l'apparition du prophète, le prophète des derniers jours. Et lorsque Jean-Baptiste paraît, notamment, certains lui demandent « Es-tu le prophète ?» Non pas un prophète, parce qu'effectivement Jean-Baptiste était un prophète, mais la question qui lui est posée, es-tu le prophète ? Et Jean-Baptiste répond, je ne le suis pas. Parce que la question sous-entendait, es-tu le prophète messianique ? Ça veut dire le Messie. Et Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Il répond non. Élie, comme nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, était en quelque sorte un type du Messie dans ce sens qu'il nous est présenté comme un prophète à la manière de Moïse. Mais comme le rappelle Malachie et comme le fait aussi le Nouveau Testament, il n'était que le précurseur du Messie. Il n'était que celui qui viendrait avant le Messie. Et précisément, Jésus dira de Jean-Baptiste qu'il était l'Élie qui devait venir. Donc ici, quand il est question de Jésus en tant que prophète, il est bien évident que nous avons affaire à plus qu'un simple prophète, comme Jérémie, comme Ésaïe ou autre, d'ailleurs. C'est ce que l'on pensait de lui. Il n'y avait aucun doute en Israël du temps de Jésus que Jésus était un prophète. Un grand prophète apparut parmi nous, disait la foule, et Dieu a visité son peuple. Lorsque les pharisiens demandent à l'aveugle né qui vient d'être guéri par Jésus, qui es-tu ? Qui est-il pour toi ? Il répond, c'est un prophète. Et c'est seulement après qu'il dira, eh bien, c'est le Fils de Dieu quand Jésus sera révélé à lui en tant que tel. Lorsque Jésus entre dans Jérusalem le jour des rameaux, on dit de lui, c'est le prophète de Galilée, c'est Jésus le prophète de Galilée. Donc Jésus a véritablement les marques du prophète dans sa vie. Maintenant, la prophétie de Moïse, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, est accompagnée aussi d'une autre prophétie, d'un autre prophète, cette fois-ci c'est Nathan, le prophète qui va être l'ami, le confident de David. Et la prophétie de Nathan, que nous avons étudiée en histoire d'Israël, est d'une importance capitale aussi pour comprendre la vision messianique. C'est, vous souvenez-vous, lorsque Nathan projette de construire un temple, lorsque David, pardon, projette de construire un temple à l'Éternel, Nathan commence par lui dire, oui, bien, fais tout ce que tu as sur le cœur, Dieu est avec toi. Et le lendemain, la parole du Seigneur a été adressée à Nathan pendant la nuit. Il vient et dit, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas toi qui bâtiras une maison, mais c'est ton fils, celui qui sortira de tes entrailles. Celui-là me bâtira une maison pour l'éternité, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc là, l'annonce, la prophétie de la filiation divine entre le père et le fils. Et la tradition ultérieure a attribué cette prophétie non pas seulement à Salomon, mais au Messie. Le Messie, le Fils, auquel précisément sont dédiés un certain nombre de psaumes messianiques, le psaume 110 dont nous avons parlé tout à l'heure, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », ou le psaume 45, qui sera aussi cité par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. L'annonce en même temps de la divinité de Jésus. Le psaume 72, qui est attribué à Salomon, et qui a manifestement aussi une dimension et une portée messianique, sont écrits dans la perspective et dans le prolongement de la prophétie de Nathan. Par conséquent, on attend en Israël l'apparition du prophète des derniers jours, le prophète Messie, en quelque sorte. Et ce d'autant que le prophète est le Messie par excellence. Messie, c'est donc loin de l'Éternel. Celui qui est loin, non pas seulement d'huile, mais celui qui est loin du Saint-Esprit. L'onction étant l'image de la consécration divine. Et, en fait, si on remonte encore plus haut que Moïse, on se rend compte dans Genèse 20, verset 7, que le premier à être appelé prophète n'est autre qu'Abraham. Or, quelle est la nature de cette onction? Eh bien, c'est finalement ce que la Bible appelle Massa, le fardeau. Le fardeau de l'Éternel, qui vient justement de l'intervention de Dieu. Cette intervention de Dieu, c'est la parole. La parole de l'Éternel est adressée au prophète dans ce que la Bible appelle Chazon. La vision, mais c'est plus que la vision, c'est la révélation de Dieu. Or, Jésus est celui qui va vivre d'une manière permanente dans la révélation de Dieu. La révélation de Dieu n'était pas permanente chez les autres prophètes. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me saisit. La main de l'Éternel ou l'Esprit du Seigneur vint sur moi et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mais même s'il y a une familiarité très grande de la part des prophètes de l'Ancien Testament avec l'Esprit du Seigneur, ça n'est pas quelque chose de permanent. Par contre, il nous est dit de Jésus qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Et à chaque instant, l'Esprit de révélation est sur lui. Élisée, par exemple, le grand prophète, n'a pas l'Esprit de révélation constamment sur lui. Par exemple, lorsque la Tsunamite, dont le fils est mort, vient vers lui pour implorer son secours, et qu'elle se prosterne devant lui, commence à lui demander comment ça va. Et elle répond, ça va. Comment va ton mari? Ça va. Comment va l'enfant? Ça va. Il est mort, l'enfant. Et alors elle se jette à ce moment-là aux pieds d'Élisée et elle étreint en quelque sorte le prophète. Gehazi est un petit peu scandalisé, veut la séparer. Et à ce moment-là, Élisée dit, ne l'empêche pas, son âme est remplie d'amertume, l'enfant est mort, mais le Seigneur me l'avait caché jusque maintenant. Par conséquent, les prophètes, les plus grands des prophètes, n'ont pas un esprit de révélation en permanence. Jésus, lui, n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, il sait à chaque instant ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus sait que la Samaritaine a eu 5 maris et que celui avec lequel elle vit maintenant n'est pas son mari. Jésus connaît Nathanaël lorsque Nathanaël vient vers lui et qu'il était sous le figuier. Il y a quelques instants auparavant, il sait que c'est un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Jésus connaît les plans de ses adversaires. Il sait ce qu'ils sont en train de préparer à son sujet. Il est capable de le dire d'avance, il est capable de l'annoncer. Il est capable d'annoncer d'avance la trahison de Judas. Il sait le moment précis où le diable entre dans le cœur de Judas et lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le rapidement », ce que les autres disciples ne comprennent pas. L'Esprit du Seigneur lui est donné d'une manière totale. Jésus vit constamment dans la révélation de Dieu. Quand l'Esprit Saint descend sur lui le jour de son baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit va demeurer sur lui. C'est ce que Dieu avait dit à Jean. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, pas simplement venir et puis repartir après, mais demeurer. Et quelques jours plus tard, quand il entre dans la synagogue de Nazareth, il peut dire, citer le texte d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et c'est en cela que Jésus est le Messie. Automatiquement, évidemment, ça implique une dimension prophétique. Ça implique une dimension prophétique pour une autre raison aussi. Parce que la révélation de l'Ancien Testament, manifestement, est une révélation qui est incomplète. La révélation de l'Ancien Testament est tendue vers un accomplissement. D'autre part, à la fin de la période de l'Ancien Testament, à la clôture de la révélation de l'Ancien Testament avec les derniers prophètes, notamment Malachie, il y a cette idée dans la tradition juive que l'Esprit Saint est retiré d'Israël. C'est ce que laisse entendre d'ailleurs le prophète Malachie. Je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants vers les pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En attendant, c'est moi qui ajoute en attendant, mais c'est un petit peu ce qui est sous-entendu, souvenez-vous de la Torah que vous a donné mon serviteur Moïse à Horeb, les lois et les ordonnances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de maintenant, il n'y aura plus de prophète pour vous conduire. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que, à nouveau, vienne un prophète à la manière d'Élie. Et entre ce moment et le temps où viendra Élie, vous n'aurez plus pour vous conduire que la révélation écrite, la Torah. Et c'est ainsi que dans la tradition juive, le prophète fait place au scribe, donc à l'homme de l'écrit, à l'homme qui étudie, au docteur, à celui qui enseigne. Et les rabbins prennent la succession des prophètes, en quelque sorte. Et on pensait que le ciel ainsi avait été fermé, le Saint-Esprit ne descendait plus sur le peuple d'Israël, jusqu'au temps de la fin où à nouveau le ciel s'ouvrirait et l'Esprit Saint serait rendu à Israël. Selon la prophétie de Joël, où les fils, les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et que finalement tout le peuple, comme l'avait demandé Moïse, sera composé de prophètes. Et quand le ciel s'ouvrira, quand l'Esprit Saint sera à nouveau rendu en Israël, alors on saura que l'avenue du Messie est proche. Et ce n'est pas un hasard si au moment du baptême de Jésus au Jourdain, Jean voit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre. Et non, c'était tout ce que le peuple d'Israël attendait depuis l'époque de Malachie. Pour nous, bon, c'est une image comme une autre, etc. Mais pour le peuple d'Israël, dans ce temps-là, c'était quelque chose de tout à fait précis. C'était un signe messianique, c'était le signe que nous étions dans les temps de la fin, dans les temps d'accomplissement, dans les temps où le Messie allait venir. D'autre part, il y avait un autre texte dans l'Ancien Testament aussi qui annonçait cela. C'était le texte où il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, du messager qui proclame la paix, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et le messager en question avait été assimilé justement avec le prophète de la fin, qui viendrait annoncer le règne de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus commence à prêcher à l'exemple de Jean-Baptiste, sa prédication est celle-ci, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Celui qui proclame de bonnes nouvelles à Sion, qui dit Sion, ton Dieu règne. » Et cela, c'était aussi la marque du prophète des derniers temps qui devait venir. Et le peuple ne s'y trompe pas encore une fois. Le peuple reconnaît en lui un prophète, un grand prophète apparu en Israël et Dieu a visité son peuple. Et lorsque Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Eh bien, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Par conséquent, la dimension prophétique du ministère de Jésus n'était mise en doute par personne. Tout le monde reconnaissait qu'il était véritablement un prophète. Jésus lui-même a proclamé cette dimension prophétique. Vous voyez, par exemple, des textes comme Luc 4, versets 18 à 21, le texte que j'évoquais tout à l'heure, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. » Luc 13, verset 33, ou Acte 3, verset 22-23, où il est dit, les apôtres annoncent que Jésus était un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Et c'est aussi ce que disent les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas ? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, tu es le seul, toi, l'étranger, là, à ne pas savoir ce qui est arrivé. Ce Jésus qui était un prophète puissant en œuvre devant Dieu, devant les hommes. Donc même pour ses disciples, n'est-ce pas, Jésus était d'abord et essentiellement un prophète. Voyons quelques instants les marques du prophète dans la vie de Jésus. Dans le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, il y avait un élément qui était indispensable. Il avait été dit à Moïse ceci, pour pouvoir reconnaître le prophète. Vous savez, il y a un texte dans le Deutéronome qui met en garde contre les faux prophètes. Or, dit Moïse, pour ce qui te concerne, toi, Moïse, plutôt c'est Dieu qui dit ça à Moïse, je te parle face à face. Mais le prophète que je te susciterai, c'est au travers d'une vision, d'une révélation, d'un chazon, comme on disait tout à l'heure, que je lui parlerai. Et si vous prenez la plupart des grands prophètes, vous vous rendez compte qu'il y a toujours, au début de leur ministère, ce que l'on appelle une vision inaugurale, une théophanie, une apparition de Dieu. C'était le cas pour Moïse, la théophanie du buisson ardent. C'était le cas pour Ésaïe, dans le chapitre 6, la vision de la gloire de l'Éternel dans le temple et les chérubins qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire ». La vision de Jérémie qui voit cette branche d'amandier, puis ensuite une marmite qui fume du côté du nord, etc. Ézéchiel qui voit la gloire de l'Éternel sur le char de l'Éternel. Vous pourrez multiplier encore les exemples. Dans la vie de Jésus, il en va de même. Et la théophanie, la révélation de Dieu en ce qui le concerne, c'est évidemment au Jourdain, au moment de son baptême. Lorsque le Saint-Esprit descend sur lui et que la voix se fait entendre, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Deuxièmement, les prophètes étaient des hommes qui avaient un message. Et c'était en cela qu'on reconnaissait qu'ils étaient de véritables prophètes de l'Éternel. Et ce message, celui que nous évoquions ces jours, c'est « Repentez-vous, chouvez-vous, revenez à l'Éternel. » Détournez-vous de vos péchés et revenez à l'Éternel. Et dès ce moment-là, nous dit la Bible, Jésus commença à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message de Jésus est aussi et essentiellement un message de repentance, et en cela, il s'inscrit exactement dans la droite ligne du message des prophètes. Le message de Jésus est centré sur la repentance précisément parce que Jésus fait des miracles. Les miracles de Jésus sont des appels à la repentance. Ils sont le signe que le royaume de Dieu s'est approché, que le royaume de Dieu a fait irruption au milieu des hommes, que les temps de la fin sont proches. Et par conséquent, face au doigt de Dieu qui a visité son peuple, comme autrefois le doigt de Dieu avait visité Israël en Égypte pour le délivrer de l'esclavage de Pharaon, il faut répondre par la repentance. Et c'est pourquoi Jésus condamne les villes dans lesquelles il a fait la plupart de ses miracles. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins durement que toi. » Par conséquent, l'attitude normale en face des miracles de Jésus, c'était la repentance. Et Jésus ne faisait pas des miracles pour épater son monde. Il faisait des miracles justement pour les amener à réaliser que le royaume de Dieu s'était approché, la présence de Dieu était là, et qu'en face de la sainteté, de la présence de Dieu, il ne pouvait y avoir d'autre attitude logique et normale que celle de la repentance. Comme lorsque, après la pêche miraculeuse, Pierre tombe à genoux en disant « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Mais les villes où Jésus a fait ses miracles n'ont pas compris cela. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'aux cieux? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et Jésus dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour voir la gloire de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec les hommes de cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Et c'est très intéressant ce texte. Cette comparaison que Jésus fait avec Jonas. D'abord à cause de sa passion, car de la même manière que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, ça veut dire 2 choses. Jésus est un prophète, comme Jonas était un prophète, mais il est plus grand que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Deuxièmement, Jésus est un prophète qui n'est pas seulement un prophète d'Israël. Car Jonas a ceci de particulier, c'est qu'il est le seul des prophètes de l'Ancien Testament à avoir été envoyé vers les nations et de ne pas avoir eu un ministère envers Israël. Tous les autres prophètes ont prophétisé pour Israël et non pas pour les nations. Jonas est le seul. Et Jésus ici dit 2 choses. D'abord, Jésus dit, lui, il n'est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, semblable cela aux autres prophètes. Et il dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens ni vers les samaritains, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus, en quelque sorte, dit, plût à Dieu que je sois comme Jonas, envoyé vers les païens, vers Tyr, vers Sidon. Parce que si je faisais ces mêmes miracles à Tyr et à Sidon, Tyr et Sidon se repentiraient comme Ninive s'est repenti. Mais le peuple d'Israël ne veut pas se repentir. Mais un jour viendra où ce message qui a été prêché à Israël sera prêché aux païens, comme il a été prêché par Jonas. Et à ce moment-là, les païens aussi se tourneront vers le salut de Dieu. De la même manière que Ninive a été sauvée à la prédication de la repentance, les païens aussi seront sauvés par la prédication de la repentance. Alors, le message de Jésus, de ce fait, est un message moral, comme l'était le message des prophètes. Je sais bien que ce n'est pas très populaire aujourd'hui de parler de message moral, mais la prédication de Jésus est une prédication morale parce que Jésus se présente comme un prophète. Et le message des prophètes, c'est « Repentez-vous et pratiquez ce qui est juste et ce qui est droit. » Jésus aimait parler en parabole, semblable aussi en cela aux prophètes. Parabole en hébreu se dit « Machal ». Machal, c'était une action ou un geste symbolique qui était accompli par le prophète et ce qu'on pourrait appeler un oracle prophétique. C'était quelque chose qui était souvent obscur, mais qui avait toujours une signification morale. Et les paraboles de Jésus ont une dimension et une visée essentiellement morale. On ne peut pas le nier. Et dans ce siècle d'immoralisme, on essaie de le faire, mais on ne le fait à ce moment-là qu'en tordant le sens des Écritures. D'autre part, comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus a connu la persécution. Le propre des prophètes, c'est que leur message est rejeté parce que leur message est trop absolu. Et quel absolu dans le message de Jésus ? Jamais un prophète n'a eu un message aussi absolu que le sien. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés, etc. Et malheur à vous riches, malheur à vous qui riez maintenant car vous pleurez, etc. Vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, faites-vous un trésor dans le ciel. On a souvent souligné le radicalisme du message de Jésus. Et ceci est un des aspects de la prédication prophétique qui était le sien, qui était dans la lignée directe de celle des prophètes de l'Ancien Testament. Or, ce message, évidemment, qui est un message aussi de liberté. Jésus est un être totalement libre, comme l'étaient les prophètes. Il n'est pas acheté, il n'est pas à vendre, Jésus. Il n'est pas sensible aux pressions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient financières, que ce soit des menaces ou que ce soit au contraire des flatteries. Et Jésus n'est un prophète, ou plutôt un prophète ne peut être prophète que s'il garde cette liberté qu'est la sienne. Or, cette liberté, la liberté des prophètes, c'est une liberté qui leur coûte souvent très cher. Parce qu'on veut museler le prophète, on veut lui faire perdre cette liberté. La liberté de dire ce qu'il a à dire. Ce n'est pas une liberté qui est une liberté devant Dieu, c'est une liberté qui est devant les hommes. Tu diras, dit le Seigneur à Jérémie, tout ce que je te dirai de dire, et tu ne trembleras pas devant eux. C'est vrai qu'ils ont le visage dur comme un caillou, mais j'endurcirai ta face pour qu'elle s'oppose à leur face, j'endurcirai ton front pour qu'il s'oppose à leur front. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ça, c'est la définition de la liberté des prophètes. Les prophètes ne sont pas liés par des considérations de personne. Crainte de déplaire à celui-ci parce qu'il est riche. Crainte de déplaire à celui-là parce qu'il est puissant. Et c'est Jean-Baptiste qui n'hésite pas à dire à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère et ça lui coûte sa tête. Mais il a cette liberté de dire ce qui doit être dit. Et Jésus use de cette même liberté, et il la possède encore à un point beaucoup plus important que les autres. Et Jésus, un jour, voit venir vers lui des gens qui lui disent « Pars d'ici, tu sais, parce que Hérode cherche à tuer. » Jésus dit « Allez dire à ce renard, qui a déjà en quelque sorte exécuté Jean-Baptiste, que... je fais encore aujourd'hui et demain les miracles que le Père m'a demandé de faire et puis que bientôt j'aurai fini parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui met à mort ceux qui te sont envoyés. Et parce que Jésus est un prophète, c'est à Jérusalem qu'il doit mourir. Jérusalem, la ville sainte, mais la ville aussi qui s'oppose à la prédication des prophètes et la ville qui tue les prophètes. Et Jésus va mourir en dehors de Jérusalem comme un prophète. Et il s'en prend aux habitants de Jérusalem qui bâtissent les tombeaux des prophètes et qui ornent les sépulcres des envoyés de Dieu et qui disent « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas agi comme eux. Mais vous témoignez ainsi que vous êtes véritablement les fils de vos pères. » Et c'est sur vous que retombera tout le sang des prophètes qui a été répandu, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Brachi, que vous avez tué entre l'autel et le sanctuaire, quelque chose comme ça. Et Jésus à nouveau ajoute Jérusalem qui tue les prophètes. Et Jésus meurt comme un prophète. La mort innocente du prophète qui a usé jusqu'au bout de sa liberté pour dire exactement ce qui devait être dit, en sorte que sa parole devient tellement insupportable que pour le faire taire, il n'y a pas d'autre solution que de le mettre à mort. La persécution des prophètes, Jésus la connaît aussi. Jésus a fait nombreuses prophéties. Bon, on en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Il a pu dévoiler ce qu'il y avait dans le cœur de Nathanaël. Il a pu dévoiler ce qu'il y avait dans la vie de la Samaritaine. Il a pu annoncer la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon des autres disciples, sa mort, bien sûr, sa résurrection, etc. Il a prophétisé aussi à beaucoup plus long terme, et les évangiles nous gardent trois grands discours qu'on appelle les discours eschatologiques ou les discours apocalyptiques de Jésus, les discours sur les temps de la fin, qu'on trouve dans Matthieu 24 et 25, dans Marc 13 et dans Luc 21, qui annoncent la ruine, la destruction de Jérusalem, sa domination par les nations, et puis finalement sa reconstruction au temps de la fin, au moment où lui, Jésus, reviendra. Jésus a annoncé la défection des autres disciples. Jésus a annoncé, par exemple, que les disciples, quand ils devaient aller préparer la dernière Pâque, allaient rencontrer un homme portant une cruche d'eau et qu'il suffisait de lui demander à cet homme de préparer la chambre haute et qu'il le ferait. Au moment où il est entré dans Jérusalem sur l'anneau, il a annoncé aussi que l'anneau allait se trouver à tel endroit et que c'est son maître, ses maîtres disent d'ailleurs, la Bible, mais il y a une raison pour cela, que je ne vais pas rentrer, son maître accepterait de laisser partir l'anneau au moment où on lui aurait dit que le maître en avait besoin, c'est-à-dire Jésus lui-même. Jésus a annoncé toutes ces choses, manifestant ainsi que il a véritablement paru comme un prophète. Et quand il se présente, souvent, il pourra dire, eh bien, je vous dis. Et c'est le cas, par exemple, dans le sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Jésus, en quelque sorte, se pose comme le législateur, le prophète législateur de la nouvelle Torah. Et c'est comme cela qu'en particulier que le présente l'évangile de Matthieu, à travers de cinq grands discours de Jésus, qui commence par le discours sur la montagne, sermon sur la montagne qui se termine par le discours eschatologique que nous venons d'évoquer il y a un instant. Jésus est le prophète à l'image de Moïse, qui de la même manière que Moïse a donné cinq livres, les cinq livres de la Torah, Jésus donne cinq, en quelque sorte, grands discours dans lesquels il établit la Torah du royaume de la réalité nouvelle qu'il inaugure, n'est-ce pas ? Il est le prophète à l'image de Moïse. Mais Jésus est aussi celui qui est ancré dans la révélation prophétique. Il a foi dans l'Écriture qui a été révélée, qui a été inspirée à ceux qui l'ont précédé. Il est celui qui a véritablement la certitude que Dieu a parlé à ses prophètes de l'Ancien Testament. Jésus, comme les prophètes aussi, est sujet à la tentation. Plusieurs reprises, nous le voyons être pris avec la tentation et savoir y résister. Les prophètes ont connu la tentation. Que ce soit Moïse, lorsqu'il a demandé la mort, Élie aura la même réaction aussi à d'autres moments. On connaît aussi les moments où Jérémie a voulu aussi se détourner de sa mission. Et bien sûr, on retrouve là essentiellement la tentation de Jésus dans le jardin, au moment où il va affronter la mort, boire la coupe, ce qu'il appelle sa coupe. Mais Jésus accomplira le plan de Dieu, la volonté du Seigneur, il le fera sans reculer et surmontera cette tentation parce qu'il est pleinement homme et qu'il a été tenté en toutes choses comme nous pouvons l'être. Jésus est apparu véritablement comme un prophète, comme le plus grand des prophètes. Il est celui qui est la clé de voûte de la révélation prophétique et c'est en lui, au travers de lui, que s'éclaire toute la révélation qui a été donnée précédemment. Et il dira aux disciples d'Emmaüs que Moïse a parlé de lui. C'est aux pharisiens aussi qu'il dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce que Moïse a parlé de moi. Et vous savez comment disciple d'Emmaüs, il ouvre les Écritures, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le soir de la résurrection, aussi aux disciples qui sont là, il leur expliqua dans Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire les trois divisions de la Bible hébraïque, la Torah, les prophètes et les écrits, les psaumes, n'est-ce pas, que le Fils de l'homme devait souffrir et qu'il devait mourir avant de s'asseoir à la droite de la majesté divine. Tous les prophètes, dirait Jésus, ont parlé de moi. Et par conséquent, il y a ici la clé de voûte de la révélation prophétique. Et le livre de l'Apocalypse dira de lui qu'il est l'esprit de la prophétie, car l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus. Et la marque du véritable prophète aujourd'hui dans la dimension charismatique, c'est précisément qu'il proclame que Jésus est Seigneur. Personne ne peut dire « Jésus est anathème s'il parle par l'Esprit de Dieu », dira l'apôtre Paul. Mais toute véritable prophétie a pour but de glorifier Jésus, de dire que Jésus est Seigneur. Et c'est en cela que se reconnaît le véritable prophète. Celui, l'Esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair, n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est celui de l'Antichrist qui est aujourd'hui dans le monde. Et c'est pourquoi, justement, il y a de nombreux esprits aujourd'hui. Vous savez, on est dans, à l'époque aussi, d'un véritable renouveau mystique. Comme disait Malraux, le 21e siècle sera un siècle religieux. Mais de quelle religion s'agit-il? Tout le problème est là. On est dans un véritable renouveau mystique aujourd'hui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mysticisme qui renaît, eh bien, il ne confesse pas que Jésus est venu en chair. Il ne confesse pas que Jésus est fils de Dieu. Et en cela, nous pouvons dire que c'est l'esprit de l'Antichrist. Et c'est pourquoi, précisément, rappeler que Jésus est véritablement le prophète, non pas seulement un prophète, mais le prophète, celui qui devait venir dans le monde, comme disait aussi Marthe à Jésus, « Je crois que tu es le fils de Dieu, le prophète qui devait venir dans le monde. » Eh bien, c'est se tenir sur une clé de voûte essentielle de la doctrine saine, de la doctrine que nous devons professer. Et il n'y a pas d'autre, n'est-ce pas, d'autre mysticisme, en quelque sorte, au sens bon du terme, pas d'autre réalité charismatique que celle qui glorifie Jésus. Et c'est pour ça, par exemple, que les charismes qui glorifient la Vierge ou qui glorifient des êtres créés de cette manière-là ne sont pas non plus l'Esprit de Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et c'est par Jésus que nous lisons l'Écriture, parce que toutes les Écritures rendent témoignage en ce qui le concerne, et toute parole inspirée aujourd'hui doit aussi rendre témoignage de Jésus. Pas directement, toujours, bien sûr, mais indirectement, n'est-ce pas, être basé sur cette foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui apporte la plénitude de la révélation de Dieu. En lui, précisément, tout s'éclaire. Il est celui qui fait en sorte que le voile se déchire et qu'en lui, nous avons la plénitude de la révélation de Dieu, de la révélation prophétique commencée dans l'Ancien Testament avec